Je suis très content ce matin de vous adresser les salutations de mon peuple, de Honduras, de les éducateurs et surtout de les jeunes qui ont beaucoup d'espérance. Et moi-même, comme éducateur, je suis très content et très honoré de l'invitation et merci, Madame Roche, de me voir ici. Alors, quel monde voulons-nous construire ensemble? Je veux emphatiser deux paroles, monde et construire, parce que c'est un travail très important pour l'avenir. Première de tous, le monde est une réalité. Le monde comme réalité existe avant nous. Nous sommes dans le monde. Nous vivons notre trajectoire dans le monde. Notre temps de mise en scène dans le monde a ses limites. Et le monde continuera à subsister après notre mort. Le monde n'est pas ce que nous disons de lui, mais il est ce que nous faisons pour lui. Il nous précède, il existe et subsiste avec ou sans nous. Mais c'est nous qui donnons au monde sa signification humaine et existentielle. Par conséquent, nous ne pouvons vivre dans le monde comme si nous en étions absents. Le monde est une réalité complexe, conditionnée pour d'innombrables éléments qui s'enchevrent. Coïncident pour former des réseaux, de nœuds de communication, des institutions, des lois, l'ordre mondial, les économies, les frontières des pays. Des sociétés, des arts, des cultures, des religions, des visions cosmiques. Le monde n'est pas un. Il est la convergence de nombreux mondes, surtout si nous admettons comme postulat que chaque Terre est un monde. En conséquence, nous ne pouvons pas parler d'un monde sans considérer objectivement qu'ils sont nombreux, le monde à l'intérieur du même monde. Il nous fait faire une certaine abstraction pour parler du monde comme insolidum. Ce qui est sûr, c'est que la pluralité du monde et sa diversité nous font changer de paradigme. Et nous font accepter que le monde se construit dans la mesure où chacun, par sa contribution, le complète pour atteindre ces réalités que nous essayons d'expliquer et de comprendre. Le monde est une réalité en constante gestation, en évolution dynamique et incomplète. Ce qui manque au monde pour se consolider, devenir insolidum, c'est la contribution et l'engagement de chacun des habitants de la planète Terre pour la rendre plus habitable, plus équitable, plus harmonieuse, plus accueillante, comme dit Paul Ricoeur. Pas de monde sans un soi qui s'y trouve et y agit. Pas de soi sans un monde praticable, en quelque façon. 50 ans de Populorum Progressio, une lecture contemporaine. Dans une société multiforme où l'hétérogénéité est devenue une norme, la pluralité un critère de comportement, la diversité une loi qui conduit à de nouvelles interprétations de l'humain, l'encyclique Populorum Progressio, par son contenu, ses messages, ses vecteurs socio-économiques promulgués il y a 50 ans, le 26 mai 1967, bénéficient d'une grande actualité, surtout dans nos contextes hautement sensibles, crispés, tendus en raison de la polarisation politique et la politisation des fondements. Aujourd'hui, nous en refaisons une lecture avec des clés contemporaines, sachant, comme le dit Paul Ricoeur, interpréter les textes de l'action, c'est pour l'agent s'interpréter lui-même. À la base de cette herméneutique de la Populorum Progressio, il faut admettre que les gens ont changé. que les lumières et les projecteurs pointent en d'autres directions, que la musique a d'autres chefs d'orchestre, mais la scène du monde est toujours la même. C'est pourquoi, 50 ans après Populorum Progressio, cette encyclique continue à être un paradigme utile et adapté parce qu'il met la personne à la base de tout et l'éducation comme moyen de promotion et de croissance et comme passage obligé pour la maturité et la réalisation de soi. Alors, une vision complète de la personne. La tendance économiste et crématistique pour comprendre le développement et la richesse à partir d'une idéologie purement technologique et statistique comme la principale variable sociale qui est la personne elle-même en manque d'éducation, de scolarisation, voire de façon plus basique en besoin de l'alphabétisation. Sa sainteté, le pape Paul VI nous dit: on peut aussi affirmer que la croissance économique dépend tout d'abord du progrès social. C'est pourquoi l'éducation de base est le premier objectif d'un plan de développement. En effet, la fin d'instruction n'est pas moins déprimante que la fin de nourriture. Un alphabète est un esprit sous-alimenté. Savoir lire et écrire, acquérir une formation professionnelle, se retrouver la confiance en soi et découvrir que l'on peut progresser en même temps que les autres. Comme nous avons dit dans, et le pape dit dans notre message au congrès de l'UNESCO de 1965 à Téhéran. L'alphabétisation est pour l'homme un facteur primordial d'intégration sociale, tout autant qu'un enrichissement personnel, et pour la société, un instrument privilégié de progrès économique et de développement. C'est pourquoi, dit le pape Paul VI, nous nous réjouissons du grand travail réalisé dans ces domaines par les initiatives privées, les pouvoirs publics et les organisations internationales. Ce sont les premiers artisans du développement, en donnant à l'homme la capacité de réaliser ses progrès par lui-même. La personne est projet et sa réalisation advient dans l'humanité, c'est-à-dire le projet et l'humanité, non pas le collectif de tous les hommes, mais la qualité humaine de l'homme. Non pas l'énumération exhaustive des individus humains, mais la signification compréhensive de l'humain capable de guider et de réguler une énumération des humains. L'humanité est la personnalité de la personne, l'apparition empirique d'un être humain. Mais en réalité, la personne est une fin en soi, à laquelle sont subordonnés tous les autres moyens et tous les calculs sur les moyens. Mieux encore, une fin en soi dont la valeur n'est subordonnée à rien d'autre qu'elle-même et en même temps une existence tangible, ou mieux encore, une présence par laquelle nous entrons en relation de compréhension mutuelle, de charge, de travail, de sociabilité. L'humanité devient pluralité dans la mesure où la personne est unique et une. Le pape Paul VI s'est affronté à un grand défi intellectuel en voulant dépasser la phonie de l'unité du genre humain et les différences composantes de cette unité. Il n'a pas trouvé de brèche impossible à sauver. Pour lui, la symétrie provoquée par le manque de possibilités d'éducation, le manque de qualité de celle-ci qui produit des résultats éducatifs inéquitables, nous force à nous atteler à la tâche. Quand il fait l'invitation qui suit, vous tous qui avez entendu l'appel de peuple qui souffre, vous qui travaillez pour leur apporter une réponse, vous êtes les apôtres de développement authentique et vrai qui ne consiste pas à l'enrichissement d'égoïstes évolués pour lui-même, mais dans le choix d'une économie au service de l'homme pour le pain quotidien distribué à toute source de fraternité et signe de la providence. Paradoxalement, nous rencontrons l'exclusion, la misère, la migration, un développement des sous-mondes, une marche de l'éducation et par conséquent du développement. Ainsi, les cris de douleur des générations entières nous placent face à des terribles paradigmes de l'indifférence, résultat d'une culture de s'autodétruire qui implose par son égoïsme et s'enferme dans une richesse sans éthique et par conséquent sans la personne. C'est pourquoi il est urgent de prendre davantage conscience que ces réalités dynamiques qui prennent des caractéristiques imprévisibles influent sur la vie réelle de peuples et des nations entières. Leur tragique réalité et leur nécessité éducative constituent une sixième continente assoiffée et affamée d'une vie meilleure, de paix, de justice et en priorité de justice éducative. Alors, humanisez l'éducation. La prétention juste d'humaniser l'éducation commence par l'éducation de l'humanité. C'est pour cela que la déclaration conciliée Gravissimum Educationis nous dit que tout homme de toute race, condition et âge, en tant qu'acteur de la dignité de la personne, a le droit inaliénable à une éducation correspondant à ses objectifs, son caractère, son sexe, en conformité à la culture et aux traditions de son pays, tout en étant ouverte aux relations fraternelles avec d'autres peuples, afin de faire grandir sur la terre la véritable unité et la paix. La vraie éducation propose la formation de sa vocation ultime et du bien des sociétés dont l'homme est membre avec la part de la responsabilité qui est la sienne une fois parvenu à sa maturité. De sorte que l'éducation a comme priorité le développement intégral de toutes les personnes et de toutes les sociétés sans exclusion et sans déséquilibre injuste. Dans la catéchèse du 12 mai 2015, le pape François dit que le pacte éducatif s'est rompu. Il nous invite à repenser la priorité éducative en offrant aux nouvelles générations des espaces de discussion et de décision personnelles et surtout en se donnant les moyens d'une culture au service de l'inclusion. Il nous invite donc tous ceux qui sont ici à chercher ensemble la réalisation d'un objectif commun au nom du respect et d'une complémentarité appropriée, d'une saine complicité, au-delà des salles de classe et des laboratoires, en allant vers les espaces éducatifs du sport, de l'art, de l'écologie, à travers le langage du cœur, de la tête et de la main. Alors, une culture de la rencontre et du dialogue. Les remèdes à la pandémie de l'indifférence et le primat de la solidarité, laquelle se nourrit de la culture de la rencontre. L'éducation est capable de construire les socles pour un dialogue pacifique et permet malgré tout la rencontre avec la diversité. De sorte que le processus éducatif se consolide dans un concept humaniste de la personne qui respecte ses caractéristiques psychologiques, son environnement culturel, sa spiritualité et dépasse toute forme d'égocentrisme et d'ethnocentrisme. Selon une conception du développement intégral de la personne et de la société ouverte à la transcendance, comme dit la Congrégation pour l'éducation catholique dans le document « Éduquer au dialogue interculturel dans l'école catholique, vivre ensemble dans une société de l'amour ». La vision éducative, en adapté qui naît de la tendance dominante à l'individualisme et au relativisme, réclame un universalisme critique qui pourrait créer une cohésion sociale et une identité commune, de sorte que tout le peuple et les sociétés puissent vivre en autonomie et en responsabilité tout en sauvegardant leur identité et en acceptant que la diversité est la norme première pour une inclusion intégrale qui évite le danger d'enfermement, de repli sur soi et de fondamentalisme. Une telle éducation, je le pense et je l'affirme, pourrait éviter la barbarie générée par les nouveaux terrorismes, la xénophobie et l'endogamie. Nous nous plaignons, mais nous n'avons pas résolu l'autre problème. Tous ces facteurs ont généré de ce qu'on appelle crise de citoyenneté. Et l'autre face de cette réalité, c'est le désordre social dans lequel nous vivons. Il est urgent aujourd'hui de retrouver la dimension humaniste du savoir et de la connaissance, d'ouvrir la raison et les différentes intelligences à la lumière de la philosophie, éclairée par la foi, de dépasser les monologues superficiels qui isolent. L'homme moderne doit se rééduquer au dialogue, s'appuyer sur la raison, la vie, le sentiment et les connaissances afin de dépasser les inégalités croissantes face aux rapides transformations technologiques. Alors, globaliser l'espérance à travers l'éducation. Face au pessimisme et à la tristesse, l'Église prend l'espérance, annonce la joie de la foi à toute l'humanité et propose à l'histoire le chemin de la dignité transcendante à la personne humaine, la valeur de la raison, de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit. Comme dit Jean-Paul II à l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Europe. En globalisant l'espérance, l'éducation vise la conversion de cœur et la transformation du monde, construite sur une solidarité sans exclusive qui éclaire quotidiennement la personne, son contexte familial, social et environnemental. L'éducation en elle-même est signe, elle est porteuse de l'espérance pour les personnes qui la reçoivent. Elle doit être garante de qualité, efficacité et équité. Il appartient à la force créatrice et persévérante de regarder au-delà des apparences, de donner un sens profond aux actions individuelles, de renouveler les choses de la terre dans une logique des services qui rendent possible le fait de vivre ensemble et se mélanger, de se rencontrer, de se donner la main, de se soutenir, de se construire mutuellement dans une mystique de fraternité et de solidarité entre tous. Pour globaliser l'espérance dans la transcendance, au-delà de l'optimisme, il est nécessaire en même temps de travailler à déglobaliser par l'éducation et à travers elle d'enrayer le racisme et toutes les déclinaisons du racisme. L'abus, la violence des enfants en situation défavorisée, les massacres, les génocides, les guerres de religion, la xénophobie. Il faut aussi de mondialiser l'hégémonie culturelle imposée par le capitalisme sauvage et le socialisme momifié qui vole à la personne le droit à être libre, à vivre dignement, à accroître ses connaissances, à prendre en charge sa vie, à changer le rythme de son histoire et à s'affranchir de toute forme de manipulation consumériste, relativiste et hédoniste. L'éducation peut beaucoup pour globaliser l'espérance et déglobaliser le pessimisme et la dépression collective dans lesquelles sont submergés de nombreux peuples. Alors, la vraie inclusion est cette implication. L'inclusion a cessé d'être une expérience exceptionnelle si l'on considère que faire inclusion dans le système éducatif est une exception, voire une philanthropie. Elle a un caractère universel de plein droit. Elle fait partie des critères exigibles à l'intérieur de la légalité et la qualité éducative. Cela suppose un intègre dans le processus éducatif des aspects anthropologiques, culturels et spirituels qui tendent vers une proposition éducative globale. Il s'agit par l'acte éducatif, enseignement, apprentissage, de supplier à la déficience de l'éducation qui souvent a été trop marquée par les mesures et paramètres purement technico-économiques. Il a une nécessité d'aller au fond des problèmes éducatifs de la société d'aujourd'hui. Ils sont si complexes que pour les maîtriser, il faut développer des voies alternatives et méthodologiques pour une prospective socialisante, inclusive, humanisante et cosmopolite, afin de réaliser une vraie inclusion par les biais d'une plus grande créativité, du tactique susceptible de comprendre la pluralité des individus, de valoriser leurs spécificités, leur nature et leurs particularités, toutes les ouvrant à l'échange et à la complémentarité, parce que chacun peut apporter avec son histoire quelque chose de personnel et d'original dans le travail éducatif large, pluriel et ouvert. Tenant compte de ce postulat, celui de l'inclusion, il n'y a pas de personne jetable à l'école. Bien que ce soit une possibilité, mais ne pouvons le tolérer parce que la déficience éducative contribue à la dégradation sociale, un phénomène qui s'explique dans différentes formes et qui peut se projeter dans les domaines éducatifs. On peut, par exemple, considérer que l'économie, si sophistiquée dans ses postulats fondamentaux, ne peut se prononcer sur une série d'éléments et conditions qui échappent et sont objet d'études comme les passions, les sentiments, les émotions, la foi, l'espérance humaine. Alors, je m'approche à la fin. Alors, perspective. Si on peut objecter que notre époque est marquée par de fortes problématiques et d'interrogations à échelle mondiale, où surgissent épidermiquement dans nos sociétés la polarisation et l'exclusion comme moyen unique pour résoudre les conflits, c'est l'homilie pour le consistoire ordinaire de novembre l'année passée. Il est cependant évident en termes de prospective que nous sommes de tout un processus de convergence planétaire, car, comme le disait Pierre Teilhard de Chardin, le peuple et les cités sont unis de telle manière, soit par les contacts psychiques, qu'ils ne peuvent grandir sans interprétation. C'est pourquoi l'éducation est une force inestimable et efficace pour le progrès, le développement et la paix entre le peuple. L'actualité de l'encyclique Populorum Progressio s'est comprendre à partir d'une herméneutique qui part d'une vision de solidarité globale et d'interdépendance incluse qui va au-delà des limites de la technocratie, du rendement économique, de la tyrannie du bien-être. Elle précise de tout programme conçu pour augmenter la production, finalement, n'a d'autre raison d'être que le service à la personne. Il existe pour réduire les inégalités, combattre la discrimination, délivrer l'homme de l'esclavage, le rendre capable d'être agent de l'amélioration de ses conditions matérielles, de son progrès moral et de son développement spirituel. Parler de développement, c'est effectivement se préoccuper tant du progrès social que de l'évolution économique. Il ne suffit pas d'augmenter la richesse commune pour qu'elle soit répartie équitablement. Il ne suffit pas de promouvoir la technique pour que la Terre soit humainement plus habitable. Les erreurs de ceux qui nous ont précédés doivent servir ceux qui travaillent au développement afin qu'ils connaissent les dangers à éviter sur ce terrain. La technocratie de demain peut engendrer des maux plus redoutables que ceux du libéralisme d'hier. Économie et technique n'ont de sens que si elles sont au service de l'homme, dit Paul VI il y a 50 ans. C'est alors que ce processus évolutif doit être globalisé positivement. Il part de l'essentiel, du basique de l'alphabétisation primaire. Il passe par la formation intégrale. Il recouvre le champ éducatif complet jusqu'à la formation professionnelle et universitaire incluse. Il élargit les horizons du champ éducatif et du pluralisme culturel pour une réponse intégrale et intégrante de tout le monde possible, qui constitue du monde unique auquel nous sommes tous habitants et que nous devons construire avec un vrai sens de l'engagement. Et je finis avec une citation de l'encyclique Progressio. L'homme n'est vraiment homme que dans la mesure où, maître et juge de ses actions, il devient auteur de son progrès selon la nature qui lui a été donnée par son Créateur. Il assume librement les possibilités et les exigences. Merci de votre attention.